Chapitre 27. Le grand jour. Martégas était mort. Pastorel n'était blessé que légèrement. Avec l'aide de Notre-Dame d'Amour, il fut vite guéri. Et tout de suite, il parla de fixer le jour du mariage. Hélas, le coup de couteau de Martégas lui semblait la meilleure preuve de l'amour brutal de Roselyne. Et il avait peur de lui-même. Il voulait être marié, être bien sûr que cette Roseline ne pouvait plus empêcher le mariage, puisqu'il serait accompli. Être sûr de ne pas lui sacrifier la jolie Zanette qu'il aimait vraiment, d'un autre amour, meilleur et moins fort. Surtout, il voulait contenter sa mère. « Tu sais, Jean, tu m'as promis, le jour du mariage, de me prendre avec toi en croupe sur le sultan. »« Le jour du mariage, Zanette, c'est promis. » Mais ce jour-là seulement. Il est toujours terrible, sais-tu. Je ferai cependant ce que je t'ai promis. C'est un peu une folie, mais je veux qu'à te voir sur une telle bête arriver en ville, devant Saint-Trophime, toutes les filles d'Arles meurent de jalousie. Ce grand jour arriva. Comme ils se l'étaient promis, ils le firent. Ils allèrent à Arles dans leurs plus beaux costumes, tous deux montés sur le sultan, suivis d'une troupe de gardiens à cheval, en veste neuve, la taillole au rein, bleu ou rouge, visible sous le gilet, le petit feutre bien planté sur la tête, et chacun ayant en croupe, sur son blanc camargué, sa promise en bonnet d'arlaise. Le père Augias, la mère Pastorelle, arrivait ensuite avec quelques vieux dans des carrioles. Cela fit un superbe cortège. Les gendarmes vinrent l'attendre sur le quai, à l'entrée du pont. Quand le sultan, quittant le pont, mit le pied sur le quai, Zanette, qui tenait son bras passé autour de la taille de son fiancé, vit tout d'abord, au premier rang des curieux, la belle Arlaise, blanche comme la dentelle de sa coiffe, les dents serrées, les lèvres minces, dardant sur Jean des yeux de braise. Et le petit bras de Zanette sentit avec douleur qu'un tressaillement avait, sous ce regard, secoué le beau gardien, son fiancé, son époux. Puis Roseline regarda Zanette, et si ses regards eussent été des couteaux, il aurait percé à mort. On se retournait, on accourait pour voir passer cette troupe. En tête marchait Sultan, qu'on suivait à distance respectueuse. Sur les petits pavés pointus des rues d'Arles, en quittant la lice pour aller à Saint-Trophime, le sultan marchait de méchante humeur, avec ses pieds sans fer. Il y écaillait sa corne, et, de temps en temps, virant sur lui-même, il semblait valser. « C'est, disait-on, sa danse de noces. » On avait, la veille, réglé toutes choses à la mairie, il n'était plus question que de l'église. Le vieux porche de l'église regardait venir cette cavalcade. On était en août et il y avait des hirondelles au fond des trous de la pierre, entre les têtes des saints sculptés dans l'ogive. Les statues mutilées, sur la tête desquelles se perchaient des moineaux, revivaient au toucher des ailes. Et les petits cris des moineaux et des hirondelles semblaient dire l'indulgence et la gaieté des vieux saints et du cloître antique, à la vue de cette jeunesse si gaie et si forte qu'ils en venaient pour des épousailles. Tous les chevaux restèrent là, sur la place, gardés par des valets de ferme, venus aussi à cheval. Le sultan, à part des autres, fut surveillé par un gardien ami de Pastorelle. Il fut promené à la main, sur les lys, aux aliscans, et la ville entière vint l'admirer. Roseline osa l'approcher un peu, par côté, lui flatter l'encolure et même la croupe. Elle fut, pour cet acte de courage, admirée par les autres filles. En riant, elle disait au cheval « C'est un gueux, ton maître !» Pendant ce temps, dans l'église, Pastorelle était bien distrait. À genoux devant le prêtre, qui lui parlait de ses devoirs envers Zanette, sa femme, il pensait à Roseline, sa maîtresse. Roseline l'avait ressaisi tout à l'heure d'un regard. Il avait, sous le coup d'œil ensorcelé qu'elle lui avait lancé, frémi dans tout son être. Zanette ne s'y était pas trompée. Et voici qu'au moment solennel où il s'engageait à aimer Zanette, une enfant, une véritable enfant, à l'aimer comme sa femme, à la protéger en toute occasion, toute la vie, voici qu'il s'effrayait, se jugeant incapable de demeurer fidèle à un tel engagement. Pour sûr, il irait encore à l'autre, à celle qu'il détestait d'amour, à celle qu'il attirait haineusement et qu'il sentait bien la plus forte. N'aurait-il pas mieux fait de ne pas se marier ? À quoi bon ces pensées? C'est trop tard maintenant, se dit-il. Et il détourna son esprit de sa destinée. Il fit comme ceux qui, menacés d'une mort inévitable, ferment les yeux. La cérémonie achevée, quand Passerelle voulut reprendre son cheval, la bête enragée résista. Elle refusa absolument de se laisser monter. Habituée à ses folies, « Nous verrons bien, dit Passerelle. Attendez-moi un peu, les amis, 5 minutes seulement. » Furieux de voir sa volonté mise en échec par son cheval, et ce jour-là, sous les yeux de toute la ville, Jean le prit par la figure et l'emmena vers le champ où se tient à l'ordinaire le marché aux chevaux, aux aliscans, dans l'allée sablonneuse et isolée que bordent les sarcophages antiques près de la chapelle de Notre-Dame-des-Guerres et de celle que saint Trophime dédia à la Vierge encore vivante, c'est-à-dire à Notre-Dame d'Amour, Dei Pare Aduc Viventi. Là, que se passa-t-il entre le cheval et le cavalier? On prétendit que les vieilles rancunes du cheval syrien s'étaient tout à coup exaspérées. Jean était parvenu à le monter, mais l'animal furieux l'avait envoyé se briser les reins sur le couvercle anguleux d'un sarcophage. C'est là qu'on le trouva, évanoui, mourant. Quant à Sultan, comme il s'en revenait au galop entre les hauts peupliers vers la ville, un forgeron qui passait, portant sur son épaule une clé de fontainier, un thé de fer énorme, lança ce poids à la tête du cheval, qui, frappé à l'épaule, s'arrêta net et fut repris par les gardiens accourus. Quand on vint chercher Passerelle avec une civière, il respirait encore. Il eut le temps de dire quelques mots au prêtre qu'il avait marié et qui lui donna l'absolution. On conduisit le jour même le corps de Jean Passerelle au Sainte-Marie de la Mer. Son cercueil s'y rendit, déposé dans un char à bœufs, et toute une longue journée, le char funèbre chemina dans le désert camarguais, sous un ardent soleil, suivi de sultans scellés et bridés, accompagné des gardiens qui entouraient la carriole de Zanette. Elle était assise près de son père et toujours vêtue de la robe blanche qu'elle n'avait pas voulu quitter. Elle avait le regard fixe. Ses yeux noirs disaient la stupeur. Elle ne pleura pas, elle ne dit rien. Et de la voir ainsi, tous avaient peur, craignant la folie.